VOA Afrique, les infos. À Washington, Timothée de Nangmaï.
Il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. Bonsoir à tous. 3 casques bleus tués et 5 autres blessés ce dimanche au Mali par l'explosion d'un engin au passage de leur convoi. Selon la mission de l'ONU au Mali, le convoi circulait entre la ville de Gao et la localité d'Anéfis dans le nord du pays. La responsabilité de l'attaque n'a pas été revendiquée. Au total, plus de 100 casques bleus ont été tués au Mali, faisant de cette mission la plus meurtrière des 16 opérations onusiennes de maintien de la paix dans le monde. Les États-Unis et la Libye ont tué 17 militants islamistes et détruit 3 véhicules dans 6 raids contre un camp du groupe État islamique dans le désert libyen, a indiqué AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Ces frappes de précision ont été conduites vendredi en coordination avec le gouvernement libyen d'entente nationale et l'armée libyenne, précisent les autorités. Le parquet kényan a ordonné à la police et à l'agence anticorruption d'enquêter sur les irrégularités et actes illégaux présumés commis durant la présidentielle d'août et ont entraîné son invalidation. Cette enquête sur la commission électorale doit être bouclée dans un délai de 21 jours, a précisé le directeur des poursuites publiques, Kiriako Tobiko. Initialement prévue le 17 octobre, la nouvelle présidentielle kényane a été reportée au 26, mais des doutes subsistent quant à la capacité de la commission électorale de mener à bien l'opération. Au Nigeria, des milliers de personnes déplacées par la rébellion du groupe djihadiste Boko Haram ont manifesté dans les rues de Maïdougouri dans le nord-est ce dimanche pour dénoncer le manque d'eau et de nourriture ainsi que les conditions épouvantables dans lesquelles ils vivent. Ces hommes, femmes et enfants ont appelé les autorités à les laisser retourner chez eux et reconstruire leur vie. L'opposant et pasteur zimbabwéen Evan Mawarire a été arrêté ce dimanche en plein service religieux à Harare après avoir diffusé une vidéo sur les problèmes économiques du Zimbabwe. Son avocat a confirmé l'arrestation en disant qu'il avait été accusé de subversion contre un gouvernement constitutionnel. Samedi, le pasteur Mawarire avait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant de longues files d'attente devant les stations-service en raison de la pénurie de carburant au Zimbabwe.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Législative en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a remporté un 4e mandat historique avec 32,5% des voix, bien moins que les prévisions de 36 à 39%. Madame Merkel a souligné le défi que représente la percée de la droite nationaliste qui va entrer au Bundestag pour la première fois depuis l'ère nazie. Le parti Alternatif pour l'Allemagne, mouvement anti-musulman et anti-migrant, a en effet recueilli entre 13,1 et 13,2% des voix et pourrait avoir jusqu'à 90 députés selon les estimations. De nombreux joueurs de football américain ont posé un genou à terre ce dimanche avant les rencontres dans les stades ici aux États-Unis et à l'étranger, geste de défiance envers le président Donald Trump. Même au stade Wembley de Londres où s'affrontaient les clubs de Jacksonville et Baltimore, les joueurs ont procédé de la sorte en mettant un genou par terre. Ces joueurs sont remontés contre le chef de l'exécutif américain qui a déclaré que les joueurs refusant de se lever durant l'hymne national américain doivent être limogés. M. Trump a aussi appelé le public à boycotter les matchs pour protester contre de tels joueurs. Les joueurs en majorité noire disent qu'ils refusent de se lever pour protester contre la discrimination dont sont victimes les minorités, mais aussi contre les propos et la politique du président Trump. Le président du Kurdistan irakien Massoud Barzani a exhorté la population de cette région autonome du nord de l'Irak à prendre part massivement au référendum d'autodétermination de lundi. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'indépendance nous permettra d'éviter les tragédies passées, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Erbil. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a affirmé de son côté qu'il prendrait les mesures nécessaires pour préserver l'unité du pays après cette décision du Kurdistan de tenir un référendum d'indépendance. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Timothée Donangmaï ici à Washington. Je vous retrouve à 20h temps universel.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et bienvenue au Dialogue des religions, une émission de VOA Afrique. Avec vous ce soir, Timothée Donangmaï pour parler d'une autre révolution en Tunisie où les Tunisiennes musulmanes peuvent désormais épouser l'homme de leur choix, qu'il soit musulman ou pas. La présidence tunisienne a annoncé la semaine dernière l'annulation de toutes les circulaires ministérielles interdisant de telles unions. Qu'en est-il dans votre pays et que pensez-vous de cette situation? Vos appels en direct dans cette émission au plus 1 pour les États-Unis, 202-205-2633, plus 1 pour les États-Unis, 202-205-2633. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur voafrique.com. Alors, pour nous apporter un éclairage sur cet important développement en Tunisie où les Tunisiennes peuvent maintenant épouser le conjoint de leur choix, qu'il soit musulman ou pas, j'ai joint à Tunis Madame Sana Benachour, présidente de l'association Beiti Tunisie pour les femmes sans domicile fixe. Elle retrace tout d'abord l'historique de l'interdiction faite aux Tunisiennes d'épouser un musulman dans leur pays.
Cette interdiction a été posée une première fois en 1963, ensuite en 1973, par de simples circulaires, c'est-à-dire des actes de type administratif qui sont considérés, qui ont été considérés par nous, les associations de la société civile, les activistes et les féministes, comme des actes illégaux et inconstitutionnels, parce qu'elles ajoutent une condition à la loi qui n'existe pas. Il n'y a dans le code du statut personnel aucune disposition explicite qui empêche la Tunisienne d'épouser la personne de son choix, d'être libre de choisir son conjoint. Et la situation a duré pendant de longues années, et donc les Tunisiennes qui épousaient ou qui épousent des non-musulmans se voyaient refuser la célébration de leur mariage en Tunisie et l'inscription de leur mariage sur les registres d'état civil, ce qui entraîne des effets néfastes pour elles au niveau de leur situation juridique et de la reconnaissance de leurs droits en tant que femmes mariées.
Que dit la religion musulmane par rapport à ce mariage de la musulmane à un homme musulman, puisque les hommes musulmans peuvent épouser des non-musulmanes?
Je n'aimerais pas parler de la religion musulmane, parce que dans la religion musulmane, elle est complexe, c'est pas qu'un bloc. Dans la religion musulmane, il y a le droit musulman, et dans le droit musulman, il y a ce qui relève de ce qu'on appelle les droits de Dieu, et il y a ce qui relève des droits de la société. Et le mariage n'est absolument pas un article de foi. La religion, l'islamité d'une personne, la croyance d'une personne ne s'arrête pas à son mariage avec un musulman ou avec un non-musulman. Et donc, ce sont des dispositions qui viennent de très loin, à partir de certaines interprétations qui ont été faites par ce qu'on appelle les jurisconsultes musulmans. Et petit à petit, en tout cas dans le rite malikite pratiqué en Tunisie, il y a eu cette interdiction qui exige de la personne non musulmane de se convertir à l'islam, sinon il n'y a pas de mariage, il est considéré non valide par le droit tunisien.
Est-ce que cette abrogation résout tous les problèmes ou bien y a-t-il encore des défis à relever par rapport à cette question?
Il y a encore quelques défis, et de gros défis même à relever, parce que le problème est là. On a un code du statut personnel qui a été promulgué en 1956, qui a été révisé plusieurs fois dans un sens libéral et émancipateur, mais qui n'établit pas l'égalité en droit entre les conjoints. Le code du statut personnel, c'est un peu le code de la famille. Il n'établit pas une égalité en droit. Et donc, il y a énormément de poches d'inégalité qui sont très importantes et qui montrent qu'il y a une infériorisation des femmes par le droit. Et tout ça, ce ne sont que des interprétations, hein.
Voilà, c'était la Madame Sana Benachour, présidente de l'association Beiti Tunisie pour les femmes sans domicile, que j'ai jointe à Tunis. Malheureusement, Madame Benachour était occupée et ne pouvait pas prendre part directement à cette émission, mais elle a quand même donné le sentiment des femmes tunisiennes par rapport à cette délicate question du mariage entre Tunisiennes, une Tunisienne musulmane et un non-musulman. Alors, nous avons eu beaucoup, beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Brahima Doumbia écrit « Je pense que la révolution tunisienne profite plus aux femmes qu'aux hommes. Elles sont bien écoutées et les préoccupations sont considérées. Or, l'islam n'a pas boycotté le droit des femmes. » Nous avons aussi Noudji Guidé Médard qui écrit « Félicitations aux défenseurs des droits humains et des libertés de la Tunisie pour cette victoire qui est obtenue au prix d'énormes sacrifices. Cette bataille gagnée par le peuple tunisien est historique. » Nous avons quelques auditeurs au téléphone. Nous allons commencer par Archiduc Trésor, un fidèle auditeur de N'Djamena au Tchad. Nous avons perdu son contact. On va essayer de le rappeler. Et nous passons à Kelechi Amana de Guinée. Bonsoir Kelechi. Allô Kelechi? Non, lui aussi nous a fait faux bond. Ben, nous allons essayer de le retrouver. Et nous avons notre ami Hassan Omar de Djibouti. Bonsoir Hassan.
Bonsoir.
Voilà, comment voyez-vous ce développement dans les droits des femmes en Tunisie?
Moi, dans ce point-là, aujourd'hui, quand on parle de la libération de choisir le conjoint qui n'est pas musulman, moi, je m'oppose parce que la loi coranique, elle est tout à fait claire. Un homme musulman doit épouser une femme qui n'est pas de la religion musulmane. Mais pour ce qui concerne pour la femme musulmane, c'est un peu strict et il y a une opposition. Il y a surtout une opposition qui est dans la loi coranique. Donc, on ne doit pas juste dire et essayer de mêler entre le spirituel et le temporel. Donc, moi,
mais justement, Madame Sana Benachour souligne que dans le code tunisien de la famille, rien n'interdit explicitement à une musulmane, une Tunisienne musulmane, d'épouser un homme musulman. Donc, aux yeux de la loi tunisienne, elle dit que c'est pas du tout interdit.
Oui, tout à fait. Je crois que...
Ah, nous avons perdu notre ami Hassan Omar de Djibouti. On me signale que nous avons Léo Cargo qui est en Tanzanie. Bonsoir Léo.
Oui, bonsoir le VO Afrique, bonsoir les auditeurs, auditrices de la radio Voix d'Amérique.
Alors, Léo, vous êtes en Tanzanie, mais vous êtes d'origine burundaise. Alors, quelle est votre position par rapport à cette question en Tunisie?
Ok, premièrement, d'abord, je salue cette décision, ou bien d'abord cette revendication des femmes musulmanes. Ok, mais quand même, moi, je dis que vraiment, c'est bon, il faut que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Donc, il ne faut pas que la religion, d'abord, soit un obstacle pour le droit. Pour les droits humains. Donc, je pense que même aussi les pays musulmans ou bien les pays où on compte beaucoup de musulmans puissent adopter, puissent suivre cette belle mesure, cette belle d'abord que même la Tunisie a adopté cette décision.
Alors, notre ami Hassan Omar de Djibouti disait tantôt que si on est musulman, on doit adhérer à ce que dit la religion plutôt qu'aux lois des hommes.
Non, d'abord, essentiel, il faut que, en fait, les hommes, ou bien il faut que même la religion obéisse au moins le droit des femmes. Il ne faut pas que la religion soit, en fait, un obstacle pour le droit, en fait, des êtres humains. Raison pour laquelle, moi, je salue cette décision des droits des femmes de la Tunisie. Aussi, je pense que même si chez nous, au Burundi, c'est pas un pays musulmans, mais où on compte beaucoup de musulmans. Mais je vois que aussi ce problème existe dans les pays musulmans, dans les pays arabes où on compte beaucoup de musulmans. C'est là où les femmes d'abord n'ont pas le même droit que les hommes.
Est-ce que c'est un problème qu'on ne retrouve pas aussi dans d'autres communautés religieuses? Par exemple, si quelqu'un est catholique, un autre est protestant, est-ce que ce n'est pas des petits problèmes aussi de ce côté?
Non, je pense qu'en fait, c'est pas un problème grave vraiment pour les autres religions. Prenons par exemple les catholiques ou bien les protestants. En fait, où on enregistre ce problème, c'est dans les pays d'abord musulmans, où vous voyez que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes.
Merci beaucoup, Léo. Nous avons cette réaction de Tougma Flavien qui écrit sur Facebook. Chaque fois, on voit certains dire qu'en Tunisie, ce ne sont pas de vrais musulmans. Qui vous a dit que vous-même êtes de vrais musulmans? Chaque pays songe au bien-être de sa population. Pour moi, c'est une bonne chose. Également, sur cette question, donc nous retrouvons notre ami Archiduc Trésor de N'Djamena au Tchad. Bonsoir, Archiduc.
Bonsoir à tout le monde.
Voilà. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce développement en Tunisie et quelle est la situation dans votre pays, le Tchad?
Au Tchad, généralement, lorsqu'un musulman veut se marier à une chrétienne, on fait à ce que la chrétienne se convertisse, c'est-à-dire elle devienne musulmane avant que le mariage musulman se fasse. Mais généralement, par rapport au cas de la Tunisie, pour moi, c'est une évolution où il faut mettre la spiritualité au centre de la vie en famille. Chez nous, les chrétiens, généralement, dans la Bible, c'est dit que lorsque deux personnes s'entendent de vivre ensemble et que l'un n'est pas un croyant, on ne peut pas dire que la personne qui est croyante devait être loin de la personne croyante. C'est-à-dire le mariage entre le non-croyant et le croyant est permis selon la religion chrétienne. Mais la Tunisie que nous connaissons et les États islamiques que nous connaissons, généralement, c'est la guerre de religion. Chacun veut à ce que sa religion soit au-dessus des autres. Et je pense qu'actuellement, au 21e siècle, les gens ont compris que la religion est faite pour la morale et pour une bonne vie dans la famille. Et certaines mauvaises pratiques qui n'ont rien à voir avec la religion devraient être abolies.
Alors, cela dit, au Tchad, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, aucune loi n'interdit formellement le mariage entre des gens de différentes religions.
Effectivement, la loi telle que je maîtrise bien, il n'y a aucune loi qui interdit le mariage entre un musulman ou un chrétien, par exemple. Mais dans la pratique, ce que les gens font de notre sujet, sinon légalement, le mariage entre un musulman et un chrétien est permis.
Voilà, merci Archiduc Trésor. Nous avons aussi Bien Pabé. Bienbé Valentin, pardon, du Tchad également. Valentin, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, quelle est votre réaction?
Ok, la décision de la Tunisie, c'est une décision très salutable. Parce que de nos jours, on veut beaucoup plus de cohabitation. Et c'est une décision que tout le président a fait, de remettre en pratique, voir tout le monde. Quelle est la conversation entre les musulmans, les chrétiens et les païens? Ça peut éviter de la xénophobie entre nous. Prends l'exemple de mon père ici, le Tchad. Bon, la chrétienne peut se marier aux musulmans. Je prends l'exemple sur moi-même. Il y avait ma petite amie, c'était l'église catholique, et moi, je suis protestant. Mon pasteur m'avait interdit de se marier à cette fille. En soi disant qu'elle est catholique, moi je suis chrétienne, et la Bible interdit ça. Donc j'espère que le gouvernement exerce des petits efforts pour interdire de pareilles choses.
En fait, ainsi que je l'ai souligné tantôt, au Tchad, comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, aucune loi n'interdit un mariage entre des gens de différentes religions. Donc, du côté des autorités, je pense que les efforts ont été fournis. Peut-être que c'est du côté de la société de faire l'effort.
Oui, mais du côté de la société, moi, je vais toujours garder ma dignité. Je vais toujours respecter à mes propos, à mon engagement envers mon Dieu. Quand on m'a dit aujourd'hui, quand tu te maries avec une fille catholique, tu ne seras plus le membre de l'Église. Donc, c'est comme une interdiction de ma part. Je ne peux pas désobéir à cet engagement. Je ne peux pas m'obliger d'aller prendre la fille et puis laisser l'Église. Parce que moi, je crois en Dieu. J'espère que c'est une interdiction. Même si il n'y a aucune loi tchadienne qui interdit le mariage entre musulmans, chrétiens et païens, mais l'Église a cette interdiction.
Merci. Voilà, merci. Nous allons continuer avec les réactions de nos nombreux auditeurs. Nous avons Pâté Danemark Diallo qui écrit sur Facebook: la Tunisie ne modifiera pas ou ne changera jamais ce qui est dit dans le Coran. Et nous avons également Ahmed Ouri qui écrit: ce ne sont pas des vrais musulmans, sinon il est formellement interdit qu'un homme non musulman épouse une femme musulmane en islam. Et nous avons aussi Ibrahim Sorindiaï qui écrit sur Facebook: je sais bien que c'est la fin du monde qui est arrivée. Ça, c'est formellement interdit dans l'islam. La Tunisie, écrit-il, veut ridiculiser l'islam. Et on me signale que nous avons Serge Meboya au téléphone depuis l'Angola. Bonsoir, Serge.
Oui, bonsoir.
Voilà, allez-y.
Oui, cette décision, c'est une bonne décision. Vous savez, il y a aussi une évolution des choses. Donc, nous devons aussi comprendre également un mariage entre un musulman et un non-musulman. Ça peut aussi apporter quelque chose de bien dans la société. Donc, nous devons aussi regarder dans l'amour. Il y a aussi ce que nous pouvons parler de l'égalité entre hommes et une femme. Alors, cette décision, c'est une très bonne chose. Aussi, ça valorise aussi la position des femmes. Les femmes, maintenant, auront la facilité de choisir un mari de ce genre, que ce soit un musulman ou non musulman. Alors, cette question-là, il y a aussi une évolution de les choses que nous ne pouvons pas s'éterniser dans une situation que non, un musulman doit toujours se marier avec un musulman. Qui compte un musulman, quand il peut se marier avec un homme musulman, une homme musulman, ça peut aussi apporter quelque chose de bon dans la famille, dans les foyers. Donc, cette décision-là, pour moi, je trouve ça, c'est une très bonne décision. Et ça va aussi donner une certaine valeur dans la famille.
Merci Serge. Nous sommes dans le dialogue des religions. Nous allons vous retrouver après cette pause. Des religions, une émission de VOA Afrique, Timothée Donangmaï, avec vous ce soir pour discuter et débattre de ce développement majeur en Tunisie pour les Tunisiennes musulmanes qui peuvent désormais épouser l'homme de leur choix, qu'il soit musulman ou pas. Nous avons eu un éclairage de Mme Sana Benachour, présidente de l'association Beiti Tunisie pour les femmes sans domicile et qui fait partie des groupes de la société civile qui se sont battus au plan juridique pour obtenir l'abrogation des mesures interdisant de tels mariages. Alors nous avons au téléphone notre auditeur Ozana Djimrangar du Tchad. Bonsoir Ozana.
Oui, bonsoir Véra et bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, allez-y, quelle est votre relation, quelle est votre opinion de la situation dans votre pays par rapport à cette question?
Pour moi, j'exprime tout d'abord un sentiment de déception du fait que les gens prennent la religion pour prendre des décisions qui ne marchent pas. Et je ne comprends pas sur quelle base on dit une musulmane ne peut pas se marier à un non-musulman. Dieu ne connaît pas tout ça. Et la grande question qu'on se pose aussi, pourquoi on interdit les femmes non-musulmanes à ne pas se marier à des hommes non-musulmans?
Le développement en Tunisie, c'est que justement, une loi... Enfin, on a annulé les lois qui interdisaient les mariages entre des femmes musulmanes et des hommes non musulmans. Maintenant, les femmes musulmanes tunisiennes peuvent épouser qui elles veulent.
Oui, si, dans ces cas, il y a un problème qui se pose. Il faut que les autorités prennent des décisions qui éclaircissent cette situation d'une manière claire. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et puis n'importe qui prend sa décision, ça ne marche pas. Je ne sais pas, la religion ou la race ne peut pas être un obstacle qui peut empêcher n'importe qui peut se marier à un homme ou à une femme de son choix. Donc il faut qu'on laisse la liberté quand même, la liberté sociale à ces personnes qui peuvent faire ça leur vie aisément et ne pas les contraindre je trouve à ce niveau que c'est vraiment anormal. Il faut pas que ces choses apparaissent. On est dans un temps de démocratie, alors la démocratie peut aussi intervenir dans le cas des mariages. Donc il faut que les autorités prennent leurs décisions à même pour que ces choses comme ça ne continuent pas. Surtout dans les pays islamiques, on voit que ça ne marche pas, il y a des décisions qui ne tiennent pas.
Voilà, merci Ozana. Nous avons également Célestin qui est en ligne du Tchad. Célestin, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Oui, allez-y.
Et ma question est de savoir qu'est-ce qui a amené ces changements, ces derniers temps.
Comment?
Avant, ça ne s'est passé pas. Avant, il n'y avait pas de mariage entre musulmans et non-musulmans.
Non, avant, les femmes, les Tunisiennes musulmanes ne pouvaient pas épouser dans leur pays un homme musulman. Il fallait que l'homme se convertisse à l'islam pour épouser une Tunisienne musulmane. Maintenant, cela n'est plus requis. La musulmane peut épouser l'homme de son choix.
Ah, mais pourquoi c'est dernière minute là?
C'est le fruit de la bataille engagée par les organisations de la société civile tunisienne qui estiment que ces dispositions sont contraires aux droits, aux libertés fondamentales et que ces discussions sont discriminatoires à l'égard des femmes, d'autant plus que les hommes musulmans ont le droit d'épouser des femmes non musulmanes. Donc voilà comment on en est arrivé à cette décision. Alors nous avons cet avis de Tolon Sagno de Guinée. Il dit, ici en Guinée, les musulmanes des fois sont mariées par des non-musulmans, bien que des jalousies ne finissent jamais. Au moins, les rares acceptations sont connues par endroits dont le combat reste à mener. Et nous avons notre ami Podozunwe Ferdinand. Il dit, je suis béninois, fidèle de l'Église catholique, mais je trouve que cela tient vraiment la route, car dans n'importe quelle Bible, il s'avère que nous sommes tous des créatures divines. Et nous avons Keleti Amana qui dit que, en sa qualité d'acteur de la société civile, il dit que c'est une bonne décision. Mohamed Aliou Gambo, lui, écrit, le Saint-Coran n'est pas encore modifié. Et nous avons également notre ami Mahara Bigda Kalo, je crois, de Guinée, qui dit que c'est haram, le Coran n'a pas dit ça. Et Claude Dory, du Bénin, écrit, dans cette vie, Dieu n'a pas dit de faire la distinction de religion. Nous sommes tous du même Père Céleste au Bénin. Tu as le droit de marier quiconque si vous vous aimez et les parents sont d'accord. Et enfin, nous avons Owanga Samira qui dit que c'est un grand pas pour les droits de la femme, surtout dans les milieux arabes et à religion musulmane. Nous avons Diara Kaloudi au téléphone. Oui, Diara, rapidement.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Allez-y, nous allons terminer là.
Ok, merci. À mon avis, je pense que vraiment, si la loi tunisienne a demandé cette affaire Donc, je pense que vraiment les musulmans n'ont pas de choix. Ils ont droit à accepter. Donc, à mon avis, je pense que vraiment c'est une bonne initiative par rapport à eux.
Voilà, merci Diarra. C'est avec vous que s'achève cette édition du Dialogue des religions. Timothée Donangmaï avec vous. Retrouvez-nous tous les mercredis à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.